France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Anne-Sophie Pic a 37 ans. Elle devient la seule femme distinguée par 3 étoiles dans la nouvelle édition du Guide Michelin. C'est une affaire de famille. Son père et son grand-père avaient déjà obtenu la récompense suprême.
Bienvenue dans la cuisine blanche d'Anne-Sophie Pic, accueillie par les portraits de 4 générations qui font cette dynastie de cuisiniers depuis 1889.
La grande cuisine, c'est trouver son cheminement. En fait, pour moi, c'est avoir une touche particulière, vraiment, qui soit différente des autres et l'expression d'une cuisine qui soit vraiment très personnelle.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission un peu spéciale. On va déguster en format masterclass. Et c'est le début d'un nouveau cycle de rendez-vous que nous programmerons régulièrement à notre horaire habituel. 11h le dimanche, la règle du jeu. Une grande signature de la gastronomie vient témoigner sur notre plateau. Et nous la passons au grill avec nos questions, avec une démo culinaire sur la plaque de cuisson de notre studio, mais aussi avec un échange avec notre public, car nous avons le plaisir d'accueillir de fidèles auditeurs et auditrices. Bonjour à toutes et tous! Aujourd'hui, celle qui inaugure les masterclass dont on va déguster, c'est Anne-Sophie Pic. Bonjour.
Bonjour François-Régis.
Bonjour Anne-Sophie, un grand merci d'être avec nous. Vous nous venez de Valence, hein ?
Bien sûr.
Vous êtes la chef la plus étoilée au monde et la seule chef 3 étoiles en France avec votre restaurant familial de Valence dans la Drôme. Mais vous tenez également le Bistrot André, toujours à Valence, et des restaurants gastronomiques à Lausanne, à Londres, à Paris, Singapour ou encore Hong Kong. Je ne sais pas combien de continents et de fuseaux horaires, mais ça fait pas mal de restaurants. En tout, il y en a 9, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ça totalise 10 étoiles au guide Michelin quand même.
Exactement.
Mais on va parler avec vous moins business que création culinaire, car vous êtes Anne-Sophie Pic, également l'autrice d'une formidable cuisine, d'un très très beau répertoire gastronomique, mais aussi de 11 livres de cuisine, dont le dernier que j'ai à mes côtés, que j'ai du mal à soulever. Oulala, ça va vraiment muscler, ça je peux vous dire. Je sais pas quel poids il fait, mais en tout cas, il vaut son poids en connaissance et en esthétique, puisqu'il est absolument superbe, un format très imposant. Des photos spectaculaires, des documents d'archives, ça s'appelle Imprégnation aux éditions Hachette Cuisine, paru en décembre dernier. Et on va voir que imprégnation, c'est un peu un mot étendard qui qualifie votre démarche culinaire. On va s'interroger sur ce mot très intrigant qui représente beaucoup de réalités culinaires et qui définit effectivement votre univers culinaire. On va même le cuisiner ce mot, hein, puisque vous allez passer à la plaque de cuisson, évidemment, dans les fauteuils dont on va déguster pour mettre un peu de sel mais aussi de poivre dans cette masterclass. Nos chroniqueurs Dominique Hutin et Loïc Bienassi, bonjour à tous les deux. Dominique.
Oui, c'est dimanche. Je vous propose de ne rien faire, on va buller en toute conscience.
Ah, buller en toute conscience, je vois où va nous emmener votre chronique à peu près, enfin je devine en tout cas tel que je vous connais. Loïc.
Un peu dans le même registre, il sera question de vacances, de route des vacances, de nostalgie et accessoirement quand même de gastronomie.
Ah, et il n'a pas lâché le mot, cette fameuse artère des vacances qui passait autrefois par Valence. On va peut-être en parler avec notre historien maison, Loïc Bienassi. Pour retrouver tous nos contenus, les podcasts, les recettes, les infos pratiques de notre émission, franceinter.fr, à la page, on va déguster.
France Inter, les masterclass dont va déguster François-Régis Gaudry.
Un prénom, une date... Une couleur. Anne-Sophie Pic, nous avons picoré dans votre ligne de vie et votre trajectoire de chef cuisinière. Et on voudrait que vous les commentiez pour nous. Vous êtes d'accord ou pas ?
Avec plaisir.
C'est parti. Un prénom, j'ai choisi Sophie. Alors évidemment, c'est la deuxième partie de votre prénom composé, mais c'est aussi...
C'est aussi le prénom de mon arrière-grand-mère, Sophie Pic. Nous avons juste 100 ans d'écart.
Ah oui.
Elle est née en 1869 et je suis née en 1969. Et cette femme, elle a inauguré la dynastie des cuisiniers. Elle a cuisiné très jeune.
Alors au départ, c'était pas à Valence ?
C'était pas à Valence, c'était en Ardèche, sur le lieu dit Dupin, un hameau, presque en autarcie finalement. On faisait aussi du vin au pain. Il y avait donc la ferme, la maison de mes grands-parents, un hôtel, quelques chambres et donc le café. Elle s'est mise à cuisiner en total autodidacte. Une femme que j'aurais aimé connaître bien sûr. Mais je connais finalement ce qu'elle a été, beaucoup d'altérité, protestante, ardéchoise, très fidèle, très investie.
Je brandis dans notre studio et à notre public cette photo absolument incroyable qui date de 1889. Vous ne trouvez pas quand même, cher public, qu'il y a un art de famille ?
Sourire en moins un peu.
L'arrière, grand-mère, elle a une certaine austérité, on ne va pas dire... Alors... Alto cliché, on va pas dire que c'est son protestantisme qui forcément...
Non, peut-être les temps de pause photographiques qui obligeaient...
Absolument.
Voilà.
Une très belle dignité, beaucoup d'élégance. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un modèle pareil dans votre arbre généalogique ? Ça a été une source d'inspiration ? Ça a été une source de courage aussi, peut-être ?
Je ne peux pas dire que je me suis inspirée d'elle, mais quelque part, je suis alignée par rapport à ce qu'elle a pu être, ce qu'elle a amené à la famille et ce qui m'a été raconté d'elle, bien sûr.
Vous avez déclaré dans la presse, Anne-Sophie Pic, « Je ne suis pas féministe militante, mais il faut que soit reconnu le travail des femmes à leur juste valeur, notamment par les hommes, et dans mon milieu, ce n'est pas toujours le cas. »
Comprendre ce rejet des femmes et cette non-volonté de les voir rentrer dans ce métier est quelque part un peu remuant, enfin un peu interrogeant.
Même dans cette conférence, vous avez résumé les choses de manière un peu plus drue. Vous définissez la cuisine comme un métier d'homme, une tâche de femme.
Oui, c'est exactement ce que c'était, parce qu'il y a toujours eu des femmes en cuisine. Domestique, c'est la façon dont je l'ai nommée à ce moment-là, mais c'est vrai qu'au niveau professionnel, elles étaient assez exclues, et voire il y avait même une bataille. Hein, Phyla Gibert, qui a constitué le guide culinaire d'Escoffier, refusait, enfin c'était une vraie bataille pour ne pas permettre aux femmes d'entrer dans les cuisines, donc c'est un vrai sujet.
Oui, avec des propos vraiment véhéments, Gilbert, hein, très méprisant.
Ouais,
Loïc Bienassi. Alors, nous sommes allés avec Loïc à Valence. On a eu la chance d'être accueillis par Anne-Sophie Pic la semaine dernière. On a constaté une grande parité, à la fois dans vos équipes de cuisine, vos équipes de salle, beaucoup de femmes à tous les étages dans la maison Pic à Valence.
J'ai pas cherché les femmes particulièrement, mais à un moment donné, elles sont bien sûr venues à moi et je les ai accueillies de la même façon que les hommes, parce que j'estime que ce qui me plaît finalement, c'est la complémentarité homme-femme qui s'exerce dans ma maison, sans accrochage, sans véhémence, mais en toute addition de talent finalement qui se crée réellement, et en respect surtout, et ça c'est... Je pense que c'est peut-être ma plus belle victoire, finalement, aujourd'hui.
Allez, on passe à la date. On a choisi une date assez récente dans votre carrière, le 21 septembre 2023. C'était presque hier. Est-ce que vous vous souvenez, Anne-Sophie Pic ?
Oui, c'est une date que je ne risque pas d'oublier. C'est vrai, quand j'ai été sollicitée pour faire ce dîner à Versailles pour donc, la venue du roi Charles III, donc, j'ai été donc, sollicitée avec Yannick Aleno, Pierre Hermé et Bernard Anthony pour le fromage. C'était quelque chose de déjà très honorifique et une forte pression sur cette sollicitation. Mais surtout, je voulais profiter de ce moment, en fait. Comment exprimer ça ? C'est-à-dire que j'ai fait le travail en amont de penser à toutes les éventualités, voilà. C'était aussi le choix du plat que je voulais vraiment relier à ce château de Versailles, parce que j'avais lu des écrits aussi du jardinier du roi qui était de la Quintigny, qui avait, lorsqu'on s'entend, bien sûr, il y avait une vraie recherche d'avoir le plus beau jardin possible, mm-hmm. avec des essences exotiques, et notamment, il cultivait des melons. Donc, le homard bleu et le tourteau de casier se sont donc mariés aux melons et à l'amande fraîche de ma région de Valence.
Je me suis laissé dire que c'était un plat absolument prodigieux, que moi, je n'ai pas eu la chance personnellement de goûter.
Je vous le referai quand vous voulez.
Non, mais sacré mariage.
Oui, c'était un joli mariage. Ces fils invisibles dans les ingrédients que j'adore tisser entre eux, c'est les choses qui se révèlent les unes par rapport aux autres. Et après, c'est l'équilibre et la justesse qui fait que ça peut devenir magique. Mais...
Combien de convives dans la Galerie des Glaces au château de Versailles ?
250 personnes.
Ouf. Et là, j'imagine qu'on ne dort pas forcément très bien la veille, non ?
Non, la veille, on ne dort pas bien, je vous confirme. Même le jour d'après, parce qu'on se refait le film. Mais c'est toujours impressionnant, parce que ce qui est intéressant, c'est finalement de s'adapter, c'est d'être dans une forme de... On est un peu bousculé dans ses habitudes. Et c'est bien aussi, parce que ça veut dire qu'on est différent, mais on reste stable. Il faut, vous voyez, cet enracinement protestant dont je parle souvent.
Vous avez eu une réaction, un retour du roi d'Angleterre ou du président de la République ?
Bien sûr, ils nous ont salués à la fin du repas. C'était assez magique. Assez magique. Et je lisais en fait sur le visage du président de la République la satisfaction de ce dîner, parce que finalement, au-delà, la cuisine a toujours été quelque chose de très important, même dans les lieux de pouvoir. Et c'est une fierté qu'on doit avoir, nous, chefs, c'est sûr.
La fameuse gastrono-diplomatie dont Loïc Bienassi pourrait nous parler pendant des heures.
Absolument. Avec plaisir.
On finit par une couleur, alors c'est vrai que c'est assez intriguant, c'est la couleur de la couverture de votre nouveau livre Imprégnation. Vous aviez par ailleurs publié en 2012, 12 euros éditions Hachette, le livre blanc. Votre cuisine est blanche, on l'a constaté avec Loïc Bienassi la semaine dernière. Le menu, tiens il est là, bah, il est évidemment tout blanc. Vous avez un dessert emblématique, le millefeuille, qui parfois est servi sous la forme d'un cube totalement blanc. Pourquoi cette couleur, Anne-Sophie Pic?
Ben, le blanc est arrivé dans ma vie très jeune. J'ai toujours beaucoup aimé le blanc. Je pense que c'est, cette fascination pour le blanc, elle est multiple. C'est la pureté, c'est le commencement. En fait, je pense que quand j'ai commencé dans mon métier, j'avais la sensation de finalement d'être... j'étais novice, je m'en cache pas. Et le blanc, c'était le départ, en fait, le point de départ. Et c'est resté là comme un fil conducteur. Et ça permet aussi le contraste de couleurs. C'est grâce au blanc que la couleur existe. Et la couleur est tellement importante en cuisine. Ça dit aussi la technique bien réussie. Ça dit beaucoup de choses. Donc voilà, tout ce contraste-là est important. Et dans le livre Imprégnation, j'ai pas pu me départir du blanc non plus.
Donc c'est à la fois de la pureté, si je comprends bien. Synonyme de pureté. En même temps, le blanc, la page blanche, un terrain formidable d'expression et de création.
Oui, une forme d'élégance, tout simplement.
Aux manettes de cette masterclass dont va déguster Laurent Thomas, Julien Thévenot et Julien Dumont, Fabrice Rivaud pour la programmation et la préparation. Et ça nous a demandé de la préparation, cette émission. On se retrouve juste après Come Around and Love Me de l'artiste soul américain Jalen Ngonda. On retrouve Anne-Sophie Pic dans un instant. Vous êtes bien sur France Inter. Celle qui inaugure les masterclass dont va déguster n'est autre qu'Anne-Sophie Pic. Et on est ravis d'être avec vous. Merci chère Anne-Sophie. 3 étoiles à Valence. On a eu la chance, comme je le disais avec Loïc, de venir... À Valence,
privilège.
D'aller y faire un tour. Impression, Loïc, vous avez encore des étoiles dans les yeux. Hein.
Alors, oui, on parlait du blanc des cuisines. Déjà, première impression, je trouve que tout ce qui a été évoqué par rapport au blanc, il y a aussi cette sérénité, moi, qui m'a impressionné dans les cuisines.
Cette fluidité.
Exactement. Tout se faisait dans le calme. Donc, là aussi, c'était une forme d'élégance, d'ailleurs, je trouvais.
On a souvent l'image du coup de feu, il a raison, hein, un peu militaire. On lance le service, boum boum, tout le monde au garde à vous. Et là, il y a comme une espèce de chorégraphie très bien orchestrée, avec beaucoup de fluidité, beaucoup de bienveillance, même si on sait que c'est le mot à la mode. Mais c'est vrai, on l'a constaté.
Oui, en fait, je crois que la concentration, c'est le maître mot aussi dans cette cuisine, et la coordination entre chacun. C'est-à-dire que cette complicité-là, elle est réelle, elle existe. C'est une équipe qui travaille ensemble. Il n'y a pas de maillon faible, en fait, parce que finalement, c'est ce que je leur dis toujours, on doit se compenser les uns mutuellement. On ne peut pas être tous toujours au diapason, mais... Et c'est ce travail-là qui est important.
Maison Pic à Valence, 285 avenue Victor Hugo. C'était il y a une semaine, et nous avons été accueillis par votre mari, évidemment, qui dirige avec vous le groupe Pic, David Sinapion.
Bienvenue chez Pic. L'histoire de la maison Pic est très liée à l'histoire du guide Michelin. C'est la raison pour laquelle on a cette table monumentale à l'entrée de la maison Pic, illustrée par des photos de la famille sur les 4 générations. Donc Sophie Pic, à partir de 1889, André Pic, qui a repris le flambeau de sa mère dans les années 20 à l'Auberge du Pin en Ardèche. Il décroche 3 étoiles en 1934. Il a eu la bonne idée de descendre dans la vallée sur la Nationale 7 à Valence. Et c'est là qu'il a transféré ses 3 étoiles en 36. Il a donné le goût de la cuisine à son fils Jacques, qui a pris la suite de cette maison, mais qui n'avait plus qu'une seule étoile en 1957. Deuxième étoile qu'il a regagnée en 1966 avec son épouse Suzanne, et la troisième étoile en 1973. Malheureusement, il décède brutalement en 1992, et c'est Anne-Sophie qui, pour la troisième fois dans l'histoire de cette maison, accroche la troisième étoile en 2007. Donc nous déambulons dans les salons pour rejoindre le restaurant.
Est-ce que les habitants de Valence restent fidèles à cette maison qui fait un peu partie de leur patrimoine ?
Oui, tous les Valentinois se sont appropriés un petit bout de Pic. Pic, c'est leur maison. Finalement, les grandes maisons, c'est comme les grandes équipes de foot. Il y a des hauts, il y a des bas, mais les meilleures performances sont celles qui durent.
Eh bien, nous filons donc vers le printemps ici, avec les premières asperges vertes de la saison. L'asperge, c'est le premier végétal qui repousse en nature, l'asperge sauvage, après les incendies. C'est donc un hommage à la renaissance de cette nature que nous rendons ici, avec une asperge qui a été imprégnée dans un sel au lentisque. En accompagnement, un blanc manger au lentisque toujours, quelques premières fleurs de la saison, les premières primes vertes, les violettes odorantes pour accompagner ce coulis d'asperges très frais aussi. Merci.
La première asperge de la saison avec un condiment, un assaisonnement que je n'avais personnellement jamais goûté. On vous a demandé, Anne-Sophie Pic, de nous apporter une chose solide, une chose liquide. Et cette chose solide est tout à fait étonnante, elle circule d'ailleurs dans notre public. Est-ce qu'il y aurait un petit commentaire après l'avoir frotté, l'avoir senti, l'avoir éventuellement goûté ? C'est une espèce de branche, la branche d'un arbuste. Monsieur, vous êtes ?
Je suis Frédéric.
Bonjour Frédéric.
Un arbuste, effectivement, avec des feuilles vertes un peu élancées. Et puis une petite un fruit graine.
Des baies comme ça ?
Rouge noir ou une baie. Une odeur fraîche, verte, un petit peu citronnée.
Ouh, bravo! Vous avez deviné ce que c'était ou pas?
Alors non, pas du tout. Je connaissais pas, donc...
Eh bien, solution... Mais alors, citronné, je suis bien d'accord avec Frédéric, parce qu'on le ressentait dans cette petite poudre qui enrobait effectivement cette première asperge verte bien croquante. De quoi s'agit-il, Anne-Sophie Pic?
Alors, c'est le lentisque pistachier. Donc, c'est un arbuste qui pousse beaucoup en Corse. Donc, c'est là où je l'ai découvert, parce que je me suis beaucoup baladée avec Stéphane Rogliano pendant quelques années.
Formidable cueilleur botaniste, ouais. Malheureusement décédé.
Ouais. J'ai découvert des choses merveilleuses avec lui. Donc finalement, c'est aussi lui rendre hommage que faire ce plat aujourd'hui. J'avais envie de travailler ce lentisque pistachier. Saveur de petits pois aussi. Eh je ne sais pas si vous l'avez noté dans l'aromatique. C'est une promenade, hein, cette asperge dans les aromatiques de début de printemps qui sont toujours, comme Margot l'a dit, c'est très émouvant pour moi d'entendre ma directrice de salle annoncer les plats, parce que je l'entends rarement le faire. Donc c'est très émouvant. Merci de me permettre de l'entendre.
Et elle le fait, je dois dire, avec beaucoup de précision, d'élégance, en même temps de sobriété, franchement c'était un service impérial. Hein,
absolument, ah oui, ça faisait partie du plaisir qu'on a pu prendre.
Des intitulés de place sur 4 lignes, vous mangez froid en permanence.
Alors sur le menu qu'on a récupéré, c'est beaucoup plus sobre, hein, je vous rassure cher Dominique, puisque là il s'agissait simplement de l'asperge verte qui file vers le printemps, lentisque, feuilles d'agrumes, bourgeons de sapin. On peut parler de intitulé plutôt sobre, mais champêtre, avec beaucoup de produits et tout un univers, tout un pointillisme aromatique absolument passionnant qu'on va bientôt détailler. La chose liquide que vous nous avez apportée, Anne-Sophie.
C'est un vin qui me tient particulièrement à cœur. C'est celui qui est originaire du Pin, donc du lieu-dit Pérol. Donc c'est avec l'aide précieuse de Michel Chapoutier qui nous a aidé à reconstituer cette vigne en biodynamie. On a replanté la vigne en 2003 et donc ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous de se réapproprier finalement ce lieu-dit qui est malheureusement fermé aujourd'hui. C'est un peu notre danseuse avec mon mari de savoir qu'un jour probablement on rouvrira ce lieu, mais c'est une façon de lui redonner vie par la terre. Donc le Saint-Péret, lieu-dit Pérol, cuvée 2019. Mm-hmm. Voilà, c'est des plus hautes vignes en Saint-Péret, en fait en appellation. Donc c'est Marsanne uniquement sur ces pages. Là, c'est le vin tranquille que j'ai amené.
Et c'est votre terre qui parle. Alors je propose qu'on en verse peut-être une petite rasade à un invité de notre public qui aura envie de le goûter, par exemple. Comment vous vous appelez ?
Bonjour, Bertrand.
Bonjour Bertrand.
Je viens de le, surtout de le,
bienvenue.
De le sentir.
Alors, impression.
De le goûter. Il est extrêmement aromatique. Mm-hmm. Il est formidable. On a l'impression de l'avoir déjà en bouche avant même de l'avoir goûté.
Et quand vous le goûtez, ça donne quoi?
Quand on le goûte, il est à aliforce et velours, je dirais. Il glisse dans la bouche.
Il y a du gras.
Il est présent, il est gras, il a tout ce qu'on aime dans un.
Je crois que Bertrand veut me piquer ma place, non?
Ben oui, j'ai l'impression.
Alors je vais rajouter quelque chose quand même.
Dominique.
Il y a quand même un dispositif 2019, c'est un millésime extrêmement solaire. On est dans le Rhône. Et ça a été pressé, ça a été travaillé en grappe entière, qui est normalement un dispositif pour les vins rouges. Et pourquoi les grappes entières? C'est simplement pour apporter de l'acidité, de la fraîcheur et donc de l'équilibre à l'ensemble.
Saint-Péret, bravo, vous faites votre propre vin. Et il est vrai que vous attachez une importance très particulière, Anne-Sophie Pic, à l'univers liquide dans votre univers créatif et culinaire. Vous déclarez de Paz Levinson, qui est la sommelière d'origine argentine qui chapeaute toute la sommellerie du groupe Pic, je cite... Avec elle, j'ai pu développer les dialogues aromatiques encore plus loin, jusqu'aux boissons. Des accords mets et boissons sont nés, fruits de notre intense et joyeuse collaboration.
Oui, c'est ça en fait. J'ai l'impression de vivre ma meilleure vie finalement, professionnellement parlant, parce que évidemment on choisit ses collaborateurs, mais ils nous choisissent aussi d'une certaine façon. Et j'ai vraiment en tête que ce travail qu'on fait ensemble doit être joyeux et... voilà, alors je suis pas idéaliste, évidemment, le quotidien du travail, il y a toujours des choses améliorées dans le rouage, mais c'est tellement joyeux avec les équipes et enfin c'est parce que c'est joyeux entre nous qu'on embarque les clients en fait, c'est au-delà du bonheur de travailler ensemble, c'est vraiment pour la bonne cause en fait. Donc prendre plaisir à faire les choses, évidemment le vin fait partie de notre vie et de ces dialogues aromatiques, mais aussi les boissons non alcooliques. Et je crois qu'aujourd'hui, notre vraie force, c'est ce dialogue aromatique qui s'est créé entre les plats, les mets et les vins, et les boissons en général, les boissons créatives, qui donc aussi sont faites par toute l'équipe de sommellerie. Cette sommellerie, elle est vraiment plurielle, elle s'intéresse à tout, elle s'intéresse au café, au thé, à la fermentation aussi, au kombucha, au kéfir, enfin, beaucoup de choses sont rentrées finalement dans cette sommellerie plurielle pour leur plus grand bonheur aussi, parce que c'est autant de cultures qu'ils peuvent acquérir.
La sommellerie n'est plus seulement du vin, ça c'est le moins que l'on puisse dire, on l'a constaté à votre table où la relation effectivement entre l'assiette et le verre est particulièrement intime, on a vécu des accords étonnants, détonnants, parfois déroutants, mais toujours très intéressants. Un grand cru de café qui est extrait sous nos yeux, sur le guéridon, pour accompagner votre pigeon. Enfin, c'était vraiment une démarche incroyable.
Oui, c'est toutes des techniques incroyables. Alors le café, ça fait partie aussi de cette culture que j'ai acquise et que mes équipes ont acquise avec Hippolyte Courty. Hein, L'arbre à café, voilà, que je suis allée voir il y a une quinzaine d'années. Et voilà, on a commencé à travailler comme ça et c'est merveilleux.
Et signalons que dans votre restaurant 3 étoiles, il y a aussi votre chef sommelier Edmond Gasser, depuis 3 ans, qui s'est lancé d'ailleurs dans un incroyable défi, la préparation du concours du meilleur sommelier de France qui aura lieu cette année. Il a beaucoup d'expertise, beaucoup de charisme, beaucoup d'élégance.
Vous avez goûté un vin d'un grand terroir, on vous a présenté un thé tiède, à température corporelle. Donc ici, c'est une création Maison Pic où l'on va réunir différents éléments. L'idée, c'était de travailler autour des racines. De gentiane, d'angélique, il y a un petit peu de genièvre, différentes écorces d'agrumes, de l'orange notamment. En fait, l'idée, c'est de travailler l'infusion, d'avoir une boisson qui ait un caractère désaltérant et un trait de galanga. La chef a dit que c'était sans alcool. Le galanga donne ce côté un tout petit peu piquant qui donne l'allonge, qui pourrait rappeler l'allonge de certains grands vins issus de grands terroirs.
On va déguster. Sur France Inter.
Dominique Hutin, vous connaissez bien l'univers liquide d'Anne-Sophie Pic. Que vous a-t-il inspiré?
Donc, on va commencer, si vous voulez bien, par une devinette. Qu'est-ce que vous pouvez retrouver dans votre verre à hauteur d'un million d'unités? Peut-être que le pop du bouchon qui vient de retentir peut être un indice.
Des bulles, peut-être.
Qu'est-ce qu'il est fort? Mais qu'est-ce qu'il est fort. Vous voyez, monsieur bien assis, si un jour vous voulez être chef à la place du chef, prenez-en la graine.
Alors
travaillez fort. Ou alors avoir les réponses à l'avance, comme François Régis. Bon, à des bulles, bien sûr. Alors, ce bouchon qui saute, il est expulsé à une vitesse comprise entre 50 et 60 km/h. Ce qui fait que depuis la mise en pic, il suffira de quelques instants pour qu'il atterrisse à Saint-Péret, la ville jumelle de Valence, juste en face du resto, mais en Ardèche cette fois, parce que le bouchon va devoir traverser le Rhône. Alors, pourquoi Saint-Péret? Saint-Péray, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est là que tout a commencé. Mais cette appellation, elle souffre quand même aujourd'hui d'un petit déficit de renommée, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il faut savoir que Saint-Péray faisait partie du premier train des toutes premières appellations d'origine contrôlée en 1936, donc peuvent quand même se prévaloir d'une certaine antériorité. Sauf que la réputation de Saint-Péray était établie autour du Saint-Péray et fer V100, la bulle. Voilà. Alors il faut dire que dès le début du 19e siècle, les Champenois venaient à Saint-Péray pour faire leurs courses. Ils venaient chercher des raisins un petit peu mûrs, voyez-vous. Et évidemment, cette démarche-là a inspiré les vignerons de Saint-Péray qui se sont mis à produire leur propre vin à bulle dès 1829. C'est votre date de naissance, je vous vois au Pinet du Chef.
Oui, c'est ça.
Voilà, d'accord, très bien. Et en fait, tout ça se vendait sous le nom de, attention, ça pique, Champagne Saint-Péray. Alors là, j'entends que ça crie un tout petit peu du côté de Reims. Alors, rappelons quand même qu'à l'époque, on bricolait pas mal, pour dire les choses un peu trivialement, puisque les négociants de Saint-Péray se distinguaient avec malice, je le dis avec diplomatie, un petit peu autrement, puisqu'ils sortaient des caves des volumes 5 fois supérieurs à ce que l'appellation avait récolté. Donc voilà, c'était un petit peu open bar à l'époque, et il s'est construit beaucoup de fortune autour de la bulle de Saint-Péray, à tel point qu'en 1948, pour une bouteille de Saint-Péray tranquille, s'écoulaient 100 bouteilles de Saint-Péray à bulle. Vous voyez,
ça n'est
absolument pas neutre. Donc je vous propose un petit exercice, voir le geste à la parole. Notre équipe de choc a rempli vos verres avec un Saint-Péray effervescent qui redit votre proximité, Anne-Sophie, avec la maison Chapoutier. C'est le lieu dit Le Pain. Il est dans vos verres, c'est un brut nature, donc il n'est pas dosé. Donc c'est assez droit, c'est assez rectiligne. Et ça coûte 27,26€. 26 centimes. Alors on dit l'ardéchois radin, mais quand même, je trouve que ces 26 centimes entretiennent un petit peu la légende. Donc 27,26€, vous ferez la pointe, débrouillez-vous avec ça.
Ça reste moins cher que certains bons champagnes.
Débrouillez-vous aussi avec ça, je ne veux pas avoir d'ennui. Alors, pourquoi parler du Saint-Péray version bulle? Ça cause une conversation avec quelqu'un qui vous tient à cœur, Michel Chapoutier, simplement, qui, un petit peu comme vous, joue à saut de continent, il est un petit peu globe-trotteur du vin, comme ça. Et donc, pour lui, la tendance mondiale s'articule autour des boissons à bulle. Donc, tout ça plaide évidemment pour le Saint-Péray. Sauf que, succès aidant, l'appellation s'est un petit peu endormie et les vins tranquilles ont repris aujourd'hui le dessus. Il n'y a plus que 6 producteurs de Saint-Péray effervescents aujourd'hui, donc je les ai tous dégustés. Et vous trouverez leurs 10 cuvées sur notre 72e carnet de vignes, avec les commentaires, les prix, les accords, etc. etc. Puis il restait un petit peu de place dans le tableau. Et puisque les Champenois sont venus rôder à Saint-Péray, moi je suis allé rôder en Champagne. J'ai dégusté 180 cuvées, vous avez trouvé une petite sélection, uniquement des nouveautés de 23 et 2024. Et Jules Verne, eh bien, il appelait le Saint-Péray le champagne du midi. En fait, c'est une fausse gémellité, simplement parce qu'entre les sols, les cépages, tout ça est extrêmement dissemblable. Et puis, je crois que le climat de Reims et du Rhône sont un petit peu différents aussi, me semble-t-il. Alors, puisqu'on est dans la géographie, une interro surprise. Est-ce que, Anne-Sophie, vous connaissez une ville qui s'appelle Chaboy?
Bien sûr.
13 km du resto, pas très loin.
Mais
vous tenez là une grande ambassade de la bulle, que vous ignorez peut-être, je ne sais pas. C'est un caviste qui s'appelle Vinauthentique. Il propose 43 références de cidre. Là aussi, je vous l'ai mis dans mon carnet de dégustation. 41 cidres que j'ai un petit peu axé, puisque on a en matière de cidre une féminisation de la profession. Je sais que ça vous tient à cœur. Donc là aussi, vous allez les trouver. Alors toujours dans l'esprit bulle, et j'en ai fini. Nouvelle tendance, nouvelle bulle, les bières sauvages, avec un carnet de dégustation de 25 bières. Et donc, vous retrouverez tout cet univers, vin, cidre, bière et Saint-Péray, dans nos carnets de dégustation. Donc, vive la bulle, vive la résurrection de Saint-Péray effervescent. Et quoi qu'il arrive, ne vous faites pas de bulles. Ces bulles, c'est de la balle. Et si on a du bol, elles seront belles.
Oh, joli! Bravo! On passe maintenant à l'actualité, ce superbe livre « Imprégnation » aux éditions Hachette Cuisine, paru en décembre dernier. Plus de 450 pages dans lesquelles on retrouve bien entendu des recettes, des photos lumineuses de plats signatures, de superbes planches de produits que vous affectionnez particulièrement, Anne-Sophie, des photos d'archives et même des photos récentes qui illustrent l'imprégnation. Alors c'est quoi l'imprégnation? C'est un concept? C'est une philosophie?
Oui, c'est tout ça. C'est vraiment ce travail d'accord de saveur depuis mes débuts. Je dis toujours que les techniques sont au service du goût, donc c'est des techniques connues hein, de la gastronomie française aussi, mais que je me suis réappropriée. M'en parlait de l'asperge tout à l'heure, qui est donc mise au sel de l'antisque pour justement l'aromatiser, cette fameuse osmose qui se crée naturellement. C'est vraiment aussi exprimer la quintessence d'un ingrédient, vraiment respecter l'ingrédient, mais l'aromatiser pour le pousser plus loin, plus haut. Ces aromatisations douces qui se font soit par des pochages, des marinades de liquides, sèches. Et en fait, à chaque ingrédient, une technique différente pratiquement, enfin, j'ai envie de dire, parce que finalement, ça doit s'adapter aussi à la capacité de l'ingrédient à capter.
Vous écrivez, je n'ai cessé de réfléchir sur ce qui m'anime, les trames aromatiques dans les plats. Pourquoi me passionne-t-elle tant ? Parce qu'il y a une part de révélation dans cette complexité aromatique. Parfois, lorsqu'un produit est associé à un autre, il révèle un côté jusqu'alors méconnu de tous et ils génèrent ensemble un troisième arôme. Il y a quelque chose qui relève presque de l'alchimie, de la transmutation. Vous utilisez effectivement des méthodes qui, pour la plupart, existent déjà dans la cuisine. Vous avez exploré, par contre, des techniques aussi totalement innovantes, mais marinade humide ou sèche, fumage, distillation, déglaçage, acte de contiser, passage au sucre ou au sel, infusion, maturation, fermentation. Elle est large, la palette des techniques et des savoir-faire, pour imprégner les ingrédients.
Elle est immense et en fait, elle est toujours encore à découvrir. Il y a des actions aussi mécaniques, notamment par le rotavap que j'utilise aussi beaucoup.
Le
rotavap qui est un outil mécanique, qui est un outil de distillateur en fait, mais dans lequel je peux aussi réduire mes sauces sans la réaction de Maillard, c'est-à-dire vraiment enlever l'eau de la sauce et la réduire d'une façon de distillation, donc qui est assez magique aussi. Donc en fait, tous les outils qui soient modernes ou connus ou déjà connus ou à connaître, c'est ça qui m'intéresse. En fait, c'est toujours pousser plus loin les limites de la connaissance.
Et vous vous êtes même inspiré de méthodes utilisées dans d'autres métiers d'art, tels que l'enfleurage. C'est vrai qu'on vous a beaucoup rapproché, en même temps c'est pas un hasard parce que c'est un domaine qui vous passionne. Vous avez notamment de très beaux contacts dans ce domaine, c'est évidemment le parfum. On a souvent dit que vous étiez en quelque sorte le nez de la gastronomie française parce que vous avez une approche qui leur ressemble à ces nez parfumeurs.
Oui, bien sûr, ça m'a fascinée toute jeune, en fait. La rencontre avec Francis Kurkdjian, notamment, et qui est devenu un ami.
Un grand nez français.
Voilà, un grand nez français extraordinaire. Finalement, les parfumeurs, ils assemblent des odeurs, et finalement, nous, on assemble des goûts. Hein. Et c'est vrai que le maître mot, c'est l'alchimie. Il y a quelque chose qui nous dépasse, c'est de l'inconscient, finalement. L'intuition est quelque chose que je cultive beaucoup, et finalement, pour ça, il faut aimer la nature. En fait, moi, je me rapproche toujours de la nature. C'est sûrement mes origines paysannes qui veulent ça. Mais en fait, je suis jamais mieux que dans la nature, à sentir, à goûter, à tester, à me balader. En fait, c'est regarder ce qui se passe autour de soi, c'est toujours rester curieux, en fait. Voilà, ne pas penser qu'on connaît tout, déjà, aussi. C'est une forme d'humilité qui permet d'avancer.
On évoquait l'enfleurage. Pourriez-vous nous décrire en des mots simples cette technique empruntée effectivement à l'univers de la parfumerie et qui peut trouver sa place dans votre cuisine ?
Bien sûr, donc l'enfleurage, en fait, c'était la façon de créer, de faire les parfums au tout début. Mm-hmm. Donc les fleurs, qui sont quand même très éphémères, étaient plongées dans un corps gras, alors le saindoux ou d'autres corps gras, et en fait, on distillait ces corps gras pour avoir les parfums.
Et une méthode totalement naturelle ?
Totalement naturel, et c'est vrai que la captation, nous on a une cuisine qui est quand même lactique, la France, et captée par le gras, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc moi j'ai fait beaucoup les beurres infusés, c'est grâce à l'enfleurage que j'ai réalisé. Il reste toujours à table de Valence un des premiers beurres que j'ai créé, qui est le beurre fève tonka, poivre de Vôtie périphérie. Ça montre vraiment l'alchimie entre deux goûts, deux saveurs incroyables, et c'est le beurre, c'est le liant, c'est ce qui révèle en fait.
La matière grasse capte en quelque sorte la charge aromatique, les molécules, hein, des épices auxquelles vous l'associez. Et là, en l'occurrence, beurre, fève tonka, poivre de Vôtie périphérie, c'est
oui,
ça
hein,
c'est
oui,
le poivre
oui.
sauvage de Madagascar.
Complètement.
Et là, c'est vrai qu'on l'a goûté. Une saveur plus une saveur peut donner quelque chose de totalement nouveau aromatiquement.
C'est une vraie gourmandise. Alors, sur du pain qui était aussi délicieux,
voilà.
D'ailleurs, ça aurait pu faire un repas.
Vous voulez parler de ce petit pain au sarrasin ?
Oui, absolument.
Un peu brioché ?
Voilà, exactement. J'aurais eu aucun scrupule à ne manger que ça. Mais, enfin, si j'aurais eu quelques scrupules en réalité, mais voilà.
J'aurais dû en amener aujourd'hui.
Mais c'est vrai que le beurre infusé, c'est une très belle illustration. Ce livre, ça a été quand même 2 ans de travail et l'occasion aussi de théoriser, en fait, votre démarche technique, votre cuisine, à travers notamment des grands plats signatures. J'ai eu la chance de m'attabler il y a déjà quelques années et j'avais goûté au mois de juillet un plat aussi totalement emblématique qui m'a bouleversé et tatoué les papilles au fer rouge. C'est le cas de le dire. Homard bleu, fruits rouges.
Je l'aime ce plat parce que finalement c'est une bascule en fait dans ma cuisine, c'est-à-dire que une volonté de faire un homard le plus pur possible bien sûr et le plus léger possible. Alors là on est totalement dans l'inverse finalement de ce qu'on a dit jusqu'à présent avec l'enfleurage, c'est-à-dire que je voulais ne pas avoir de notes de gras dans ce homard. Je découvre déjà depuis quelques années à ce moment-là, au moment de la création de ce plat, le bouillon, le katsuobushi, hein, le bouillon dashi
que bouillon j'utilise japonais, voilà, à base de bonite séchée, hein, c'est ça, et puis d'une algue.
Le kombu. Oui, et j'apprends à le faire et je me le réapproprie. Et l'idée dans la réappropriation, c'est d'y mettre une touche particulière, une touche française, et je veux faire un bouillon, et j'ai l'intuition de faire un bouillon aux fruits rouges, et notamment aux fraises et framboises. Et je me souviens, la première fois que j'ai fait ce bouillon, alors je m'étais dit, est-ce que je vais faire sécher les fruits rouges, ou est-ce que je l'ai fait, j'ai fait infuser frais, et tout de suite, Bon, première étape, non. Deuxième étape, avec les fruits séchés, ça a été magique. Un bouillon d'une profondeur incroyable et un goût marqué, une forme d'acidité aussi dans ce bouillon. Et j'avais très peur de faire découvrir ce plat, comme toujours quand j'utilise des techniques japonaises, de faire découvrir aux Japonais, parce que je ne veux pas trahir finalement une technique qui leur est propre. Et là, voilà, ça a été beaucoup de succès ce plat, mais probablement parce qu'il était marquant dans ma cuisine et ça a été aussi un point de bascule pour moi.
Et des plats, il y en a beaucoup d'autres, et vous êtes en effervescence permanente d'ailleurs, hein. C'est ça qui est même un peu parfois frustrant pour vos clients qui ont envie de regoûter des plats, oui. C'est que vous êtes tellement suractive en termes de création que les plats signatures défilent, vous les remettez au placard, vous en servez d'autres et vous êtes... Non, c'est vrai, vous êtes une marmite en ébullition, Anne-Sophie Pic. C'est comme ça, en tout cas, que vous décrites David, votre mari.
Oui, mais c'est le côté joyeux de mon métier qui veut ça, et je suis vraiment dans l'apogée de ce que j'aime, et j'ai des équipes aussi merveilleuses avec lesquelles je m'entends très bien, donc c'est tout ça, c'est un tout en fait.
Dans un instant, Anne-Sophie Pic va rejoindre la plaque de cuisson dont va déguster pour une petite démo culinaire avec dégustation à l'arrivée. S'il y a des cobayes consentants dans notre public, eh bien ils viendront au micro goûter ce que vous allez nous préparer. Mais on prend la route des vacances vers le sud avec évidemment un stop obligé à Valence dans la Drôme, car ici commence le midi.
De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi, National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux, National 7. Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, en chantant fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7.
Route National 7, une chanson de Charles Trenet, 1955.
On va déguster.
Nous ne sommes pas historiens, mais nous aimons les bonnes histoires, même si elles sont inventées.
sur France Inter.
Et en parlant de National 7, ça c'était une virgule spéciale, Loïc Bianassi, notre historien maison. On aime bien les belles histoires, et notamment celle d'une artère qui a été très importante dans le développement de la gastronomie en France, Loïc.
Absolument, qui a façonné un peu la géographie gourmande française. Alors dans la chanson qu'on vient d'entendre, parce qu'on ne peut pas penser National 7 sans songer à cette chanson, Valence est mentionné.
Ah, qu'est-ce qu'il est dit exactement?
Alors, qui fait de... Ben, je ne vais plus me souvenir. Alors, c'est quoi cette question piège?
Moi, je sais. Hein. Qui fait de Valence les faubourgs de Paris?
Qui fait de Valence les faubourgs de Paris? Ça, c'est à cause des pics, quand même. Hein.
Mais par contre, qui ne parle pas de gastronomie dans cette chanson. Alors, moi qui grandis près de la National 7, dans Loiret, oui, je suis à Châtillon-Coligny, enfin voilà, je ne vais pas raconter
pas
ma vie.
C'est pas sur la carte, ce truc-là.
Non, c'est pas sur la carte, mais par contre, ma mère disait toujours que la chanson avait été composée à l'auberge des Templiers.
Ah,
qui est près de la National 7. Et alors, j'ai vérifié, je crois que c'est pas le cas en réalité, mais on touche là à notre sujet, ce lien entre National 7 et gastronomie, puisque l'auberge des Templiers a été l'une des maisons fondatrices en 1954, donc un an avant la composition de la chanson, des relais de campagne qui deviendront dans les années 70 les relais et châteaux. Donc en effet, il y a un lien, National 7 et gastronomie, un lien vraiment indissociable. En fait, ce dont on parle quand on parle de la National 7, c'est vraiment du tourisme et des guides culinaires. Alors, petit rappel sur cette National 7, elle relie Paris à Menton via le Nivernais, via le Bourbonnais, et puis ensuite Roanne, Lyon, la vallée du Rhône et on longe la Côte d'Azur. C'est la grande route des vacances, justement. Voilà pourquoi je parlais de tourisme. La grande route des vacances, années 50-60, c'est alors son âge d'or, si on veut, parce qu'il y a beaucoup de nostalgie, mais la réalité, c'est que c'était aussi des embouteillages insurmontables. Une petite route, finalement, qui passait au cœur de villes et de villages. Et quand on se retrouvait à Lyon, par exemple, il y a eu toute une époque où la Nationale 6 rejoignait la Nationale 7 dans les ruelles lyonnaises.
Et donc là, c'était goulet d'étranglement.
Absolument.
Et les bouchons lyonnais, donc.
Ben oui. Exactement, les bouchons devant les bouchons. Et par contre, la Nationale 6, justement, est un peu injustement oubliée, parce que cette Nationale 6, qui, elle, passait par la Bourgogne, a aussi une histoire culinaire, mais elle n'a pas eu de Charles Trenet pour la chanter. Donc, cette belle histoire, justement, se termine un peu dans les années 70, quand les autoroutes prennent la relève. Mais ce qui est important, je crois, c'est la manière dont la National 7, pas seule, évidemment, mais a contribué notamment à construire aussi les cuisines régionales. Par exemple, la réputation culinaire de Lyon, c'est aussi grâce à la National 7. Et puis, ce sont aussi des spécialités. La grande spécialité, on aurait pu parler des pralines de Montargis, je retourne à mon Loiret natal, mais ce sont aussi les nougats de Montélimar, par exemple. Et on voyait, bah là, des embouteillages Servette, des vendeurs de nougats de Montélimar qui passaient entre les voitures pour faire découvrir le produit. Il ne suffit pas d'avoir des bons produits, il ne suffit pas d'avoir des bons terroirs, ça se construit aussi parce qu'il y a des gens qui viennent les visiter, des consommateurs, des clients et des prescripteurs. Et on a là les touristes, on a aussi les guides, évidemment, qui prennent leur essor. J'ai dit que l'âge d'or de la National 7, c'est les années 60-70, mais dans l'entre-deux-guerres, c'est le temps de la découverte des cuisines régionales, c'est-à-dire des gastronomades, pour reprendre une formule de Kurnonski, qui sillonnent la France, et notamment sur la National 7.
Donc les gourmets qui voyagent en voiture,
qui
en
voyagent,
fait, hein, les
critiques gastronomiques, les gourmets, les touristes avisés, on va dire, qui font découvrir ces produits. Et c'est pas simplement une question de réputation. La construction des cuisines régionales, c'est aussi parce qu'elle se fait dans les auberges destinées aux touristes. Et l'importance de la National 7, je vais juste donner quelques chiffres rapidement. 1933, premier guide Michelin où est mis en place le système des étoiles tel qu'on le connaît aujourd'hui, 1933. 17 établissements de province sont répertoriés. Et bien sur ces 17, 7 sont situés sur des communes traversées par la National 7 ou proches de la National 7. 1972, on a là 8 triples étoilées en province. Et bien 5 sont situées proches de la National 7. Donc il y a vraiment là un chemin pour découvrir les bonnes adresses françaises. C'est incontestable.
C'est aussi pour le sandwich triangle, peut-être, des stations à essence.
Alors, je ne vais pas parler de Jacques Borel et des années 70.
Et de ses restaurants d'autoroute, en effet.
Et on a des établissements, évidemment, légendaires. Alors, justement, je parlais de la route nationale 6. On a Saulieu, évidemment, la Côte d'Or, avec Dumaine, d'abord, et puis ensuite Bernard Loiseau. On a, avec la nationale 7, on a la maison Trois Gros, à Roanne. On a aussi, évidemment, à Vienne, le Pyramide, hein, ça va de soi, avec Fernand Point, des établissements qui vivent encore aujourd'hui, bien sûr, hein, qui sont toujours réputés. Puis, bien sûr, on a la Maison Pic, évidemment, qui, on l'a dit, n'a pas commencé sa vie, la Maison Pic, au bord de National 7, mais il y a quand même eu, et ce n'est pas un hasard, ce choix judicieux, à partir de 1936, de s'installer, mais alors vraiment en bordure de la National 7. Justement, je citerai Robert Courtine, qui écrivait en 1970, dans un article dithyrambique, sur la Maison Pic. « Les derniers beaux soirs tièdes à la remontée des vacances dans le jardin de cocagne d'André et Jacques Pic à Valence vous feront, j'imagine, un souvenir inoubliable. » Souvenir, nostalgie, voilà. C'est tout ça la nationale.
Très belle, je ne connaissais pas du tout cette citation de Courtine.
Clairement, un grand amoureux de la cuisine de la maison.
Et la National 7 a été transformée en avenue Victor Hugo, en fait, et même aujourd'hui très urbanisée. Les environnements de la Maison Pic, Anne-Sophie, sont méconnaissables.
Oui, parce que c'était quand mon grand-père s'est installé, finalement, il a repris un antiquaire, en fait, qui avait un immense jardin. Il était aussi sollicité par le maire de Saint-Péray, qui ne voulait pas le perdre en Andèche. Il voulait absolument l'installer dans un château de Saint-Péray, en fait, et mon grand-père a préféré un petit chez lui qu'un grand chez les autres.
Vous êtes équipée de votre casque, chère Anne-Sophie, derrière la plaque de cuisson dont on va déguster. Et on vous a demandé de nous préparer quelque chose. Alors, oui. Pour le coup, vous avez eu carte blanche.
Alors, en fait, j'ai voulu vous faire une sauce que je me suis réappropriée. Mm-hmm. Parce que depuis que j'ai ouvert Hong Kong, en novembre dernier, j'ai eu en tête une sauce qui a suscité ma curiosité, c'est la sauce XO.
La sauce XO, mythique sauce inventée dans les années 80 à Hong Kong. Elle porte quand même le nom d'un cognac. Hein. XO, oui. dans l'univers des cognacs qui est très populaire justement en Asie, c'est extra vieux.
C'est ça. C'est plus un condiment, cette sauce XO, qu'une sauce à part entière. Bah, en fait, j'ai amené... pour que vous voyez aussi le public, les principaux ingrédients de cette sauce, parce que c'est, pour la comprendre, il faut aussi en deviner les ingrédients. Donc, les pétoncles séchés, alors ça, c'est des pétoncles séchés qui nous viennent de Corée, parce que c'est très très bien fait. Ça, c'est celle qu'on a fait à Valence, donc on arrive quand même à un résultat assez incroyable. Alors, des aromates d'abord de l'échalote, de l'ail et du gingembre. Mm-hmm. Donc, il y a ces premiers éléments qui sont frits dans un bain d'huile à peu près à 130 degrés. Bon, là, on n'a pas amené la friteuse, hein, vous pardonnez, mais bon, il faut la plaque de cuisson.
On prend quelques raccourcis, évidemment.
Voilà. Il y a donc ces pétoncles séchés donc, qui sont réhydratés ensuite pour être effilochés et être frites à leur tour. Il y a aussi le piment jalapeno ou un piment coréen. Un piment assez fort quand même. Il y a aussi donc ces crevettes séchées. Il y a aussi du jambon à Corte-Hermère. Ils font un très bon jambon aussi à Hong Kong. Enfin, il y a aussi beaucoup de poudre qu'ils mettent, mais c'est souvent des fruits de mer qui sont séchés.
Mais alors, il n'y a pas du tout hein, de cognac, soyons clairs, parce que oui. XO, c'est certes évidemment inspiré de l'univers du cognac, mais c'est souvent un mot qui est employé à Hong Kong pour désigner quelque chose de qualité, de prestigieux, de luxueux.
J'étais toute petite quantité, je m'excuse déjà au public. Alors, j'ai la sauce XO qui est celle de Valence, et l'idée c'était de se la réapproprier à la française. Donc j'oscillais entre deux choix possibles, soit une sauce XO qui tende vers le vin rouge, vers une sauce lit de vin, mais que je pensais être un peu trop lourde, mais je m'étais mis dans la tête de pouvoir faire cet essai-là, soit une sauce XO qui tendrait plutôt vers la sucrosité, et plutôt vers la bigarade, et vers les agrumes que j'adore. Donc sauce bigarade, qui est bien connue dans la cuisine française. Donc on va faire cette sauce bigarade avec vous.
C'est une bigarade à la sauce XO.
C'est une bigarade à la sauce XO, avec quand même un départ sirop de galabé, hein, qui est le jus de canne cuit longuement. De la Réunion. Ça, c'est magique. Donc on fait cuire un tout petit peu plus ce sucre, alors sans trop... En fait, vous me faites tester la plaque de cuisson. Je la valide aujourd'hui pour les autres,
oui,
en fait.
C'est, hein, ça,
c'est
ouais.
Un peu ça. Donc on va déglacer avec le vinaigre.
Un vinaigre de ?
Un vinaigre de Xérès. Parce que je ne vous cache pas que la salade des pêcheurs, qui est un plat un peu mythique de mon père, il la faisait avec le vinaigre de Xérès. J'ai baigné dans le vinaigre de Xérès toute mon enfance durant. Donc on réduit un petit peu. Ensuite, on va déglacer avec un jus d'agrumes. Donc en l'occurrence, là, je n'ai pas un jus de bigarade orange amère. J'ai choisi un autre agrume que j'aime beaucoup, qui est un agrume japonais, on reste dans l'Asie, qui est le cabossu. Alors d'habitude, je le fais avec le jabara. La saison du jabara est terminée. Donc on va, c'est relativement réduit, on va rajouter ce jus de cabossu, qui est assez magique. Il a des arômes de fruits de mer impressionnants.
Sachant que c'est un agrume japonais qui est cultivé en France. Hein.
Exactement, Sachant qu'aujourd'hui, on utilise quand même du curcuma français dans ma cuisine, du gingembre français. C'est aussi l'évolution de ces cultures, cette appropriation de ces cultures extérieures par de jeunes agriculteurs français. Et ça, c'est magnifique aussi. Donc là, j'ai déglacé avec un jus de barde de Saint-Jacques, lui-même déglacé avec un peu de noyiprat. J'ai toujours travaillé le noyiprat sur la Saint-Jacques parce que ça, cette note un peu sucrée permet de... Voilà, cet alcool est intéressant aussi pour le déglaçage. Voilà. Donc là, on est encore dans une réduction. Et ensuite, on rajoutera donc, cette fameuse saucixo. Donc vous voyez qui est assez rouge parce que c'est une huile qui est quand même pimentée. On va augmenter un tout petit peu. Et c'est très beau. Il y a un tout petit peu de vin chinois.
Du Jiaoxin ?
Oui, c'est ça. Il y a des notes oxydatives qui sont très intéressantes. Je suis en train de travailler justement sur une asperge blanche saucixo pour Hong Kong, puisque mon chef de Hong Kong est là en ce moment à Valence. Donc il vient faire les recettes avec moi. Il repart avec 6-7 recettes.
Alors la réduction est prête. Ça
la
veut dire qu'on
obtient
une
brillante.
Texture un peu légèrement sirupeuse.
Enfin, légèrement en tout cas... sirupeuse. Et là, on va rajouter... ce condiment XO qui a été quand même un tout petit peu égoutté.
Vous râpez.
Voilà, quelques zestes. On fait un peu de la linette là, hein, j'avoue.
Ben,
mais, c'est ça qui est génial. Un tout petit peu de vinaigre de Xérès que je rajoute. Là, je pense qu'on est bien.
Bravo. Cette sauce XO, revisitée façon sauce bigarade par notre amie Anne-Sophie Pic. Anne-Sophie dresse un peu de sauce XO dans un petit bol. Ah tiens, il y a une candidate pour goûter le résultat. Vous vous appelez ?
Nina.
Quel âge vous avez ?
21 ans. Je suis étudiante en master.
Pas particulièrement dans la cuisine ?
Non, mais peut-être l'année prochaine.
Magnifique. C'est... Alors ça, j'adore. Parce que moi, quand j'ai commencé il y a 30 ans, on n'avait pas trop le droit d'être autodidacte et de commencer si on avait fait des études avant. Maintenant, c'est carrément
c'est
génial.
Alors, verdict ?
C'est délicieux. Je trouve qu'on sent bien l'équilibre entre l'acidité, le sucré, le poisson...
Elle est d'une complexité incroyable cette sauce,
ouais.
Avec en même temps beaucoup, beaucoup de profondeur et de longueur. On pourrait parler évidemment d'umami, hein. Pardon, mais ce mot-là est indispensable pour définir cette sauce. Incroyable, non ?
Oui.
On arrive malheureusement au terme de cette émission, alors on va finir en beauté avec une petite question d'auditeur.
Annabelle.
Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Bonjour Annabelle.
Bonjour Madame Pic. Vous avez évoqué l'imprégnation dans votre relation à la cuisine, presque comme une forme de fatalité ou de destinée. Si le pic est blanc à la carte du restaurant, mais noir à celle du casino, quelle place laissez-vous au hasard et à la surprise dans votre cuisine ? Merci.
C'est une excellente question. C'est une question qui m'a longtemps taraudée, j'ai envie de dire. Parce que finalement, oui, je suis quelqu'un qui aime anticiper beaucoup les choses, qui aime les penser, les réfléchir énormément. Mais à la fois, dans un service, il y a beaucoup de spontanéité. Même avec un menu unique, c'est-à-dire qu'il peut se passer tout. C'est-à-dire que quelqu'un peut louper quelque chose et en fait, c'est là où c'est magique, en fait. Et c'est ce que j'aime finalement dans un service et qui me quittera jamais, c'est de se dire que ce moment du service, c'est mon moment de communion où on est tous ensemble et on crée quelque chose ensemble et c'est ça qui est magique. Donc il y a cette part d'imprévisible à chaque moment du service. Et à la fois, la cuisine, ma cuisine, j'ai voulu la penser beaucoup, la réfléchir et amener avec moi ceux qui la composent aujourd'hui pour leur permettre de penser leur cuisine à leur tour un jour. Et c'est cette transmission que je veux donner la plus sincère possible. Et c'est une façon aussi de faire que son travail ne va jamais mourir, finalement. C'est de la transmettre pour qu'à son tour, elle soit retravaillée. Merci pour cette question.
Loïc Bianassi.
Est-ce que parfois, vous avez, j'ai presque envie de dire, un rapport simple, j'ai presque envie de dire, les repas du quotidien, est-ce que c'est tout de suite matière à réflexion ou...
Ben, elle veut se faire inviter chez vous, là.
en fait, ça dépend des moments. Alors, il y a un jour où je mange toute seule, souvent, c'est le lundi midi. Parce que le restaurant est fermé, mon mari travaille et finalement mon fils est en partie de la maison. Donc je me retrouve toute seule. Et en fait, c'est peut-être le seul moment où je cuisine pas pour l'autre, où je cuisine que pour moi. Alors il faut que ce soit bon quand même. Hein. Il faut que ce soit bon et qu'il y ait des textures. Donc c'est souvent une assiette de légumes avec un œuf mollet. Parce que je vous cache pas que le lundi, c'est aussi un moment pour moi où je mange moins. Parce que j'ai aussi besoin de ces moments, pas de jeûne, parce qu'on ne va pas aller jusque-là, mais ces moments de repos aussi, où je ne réfléchis pas non plus, où tout ne devient pas complexité dans ma tête. Donc, c'est pour répondre à votre question, et tout à fait honnêtement, c'est ça.
Vous avez évoqué votre fils, il s'appelle Nathan, il a 18 ans, il est en première année de l'Institut Paul Bocuse à Écully, même si le nom de l'école a changé de nom, hein, pour des raisons qu'on n'évoquera pas, mais bon, voilà.
Nice.
Ça veut dire qu'il s'engage dans l'aventure familiale, ou vous ne lui mettez pas encore la pression ?
Je ne veux surtout pas lui mettre la pression. Rien que d'en parler, ça lui met la pression. Et c'est vrai que Nathan, ce que je souhaite au plus profond de moi-même, c'est qu'il soit heureux. Alors, s'il est heureux dans la cuisine, comme j'ai pu l'être et comme je le suis encore, ça sera merveilleux. Mais comme je lui dis tous les jours, tu as encore le choix de changer d'avis.
Et il part bientôt en stage dans une famille très attachée à la vôtre, qui est aussi une très belle dynastie de la gastronomie française, la famille Eberlin, en Alsace.
Bien
Marc,
sûr.
Qu'on salue d'ailleurs.
Oui, on
embrasse. Un immense merci Anne-Sophie Pic.
Merci, merci à vous.
Imprégnation, votre nouveau livre chez Hachette Cuisine, il est bluffant. C'est une véritable leçon de cuisine avec un certain niveau technique, il faut bien le dire, et pour rassurer aussi nos auditeurs, on a mis à leur disposition sur notre site internet une recette très chère à mon cœur. Vous savez laquelle c'est ou pas ?
Je sais.
C'était celle de votre maman Suzanne, le poulet à l'estragon que je pratique tout le temps.
Il se pourrait que vous la fassiez encore mieux d'ailleurs, François-Régis.
En tout cas, je suis tellement content de mon poulet avec ce jus réglissé, avec les notes. Non, non, mais justement, c'est un vrai poulet du dimanche. Un grand merci Anne-Sophie Pic d'être venue jusqu'à nous. Et notre prochaine masterclass aura lieu dans quelques semaines avec un invité surprise. Encore merci Anne-Sophie, bon retour à Valence. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.